Chapitre 14. David Hume, le joueur de Trictrac. Aucun témoignage n'est suffisant pour établir un miracle. David Hume est un Écossais rondouillé qu'un de ses plus célèbres portraits présente à la postérité affublé d'un improbable bonnet d'intérieur en tissu rose et mou. Il me fait l'effet d'être sympathique et bon vivant, chose assez rare chez les philosophes pour être soulignée. En somme, il ne m'aurait pas déplu d'être invité à dîner chez lui. Sans doute aurait-il eu le bon goût de ne pas parler seulement de philosophie, de l'apéritif jusqu'au dessert, voire de ne pas en parler du tout et de proposer plutôt de m'initier aux subtilités du jeu de Trictrac. Un délicieux passage du Traité de la nature humaine évoque cette fatigue de la réflexion philosophique et sa préférence pour un bon dîner et une partie de Trictrac, une sorte de backgammon. Hume écrit: « Où suis-je? Que suis-je? De quelle cause tirai-je mon existence et à quelles conditions retournerai-je? Quel est l'être dont je dois briguer la faveur et celui dont je dois craindre la colère? Quels êtres m'entourent? Sur qui ai-je une influence et qui en exerce une sur moi? » Toutes ces questions me confondent et je commence à me trouver dans la condition la plus déplorable qu'on puisse imaginer, enveloppé de l'obscurité la plus profonde et absolument privé de l'usage de tout membre et de toute faculté. Très heureusement, il se produit que, puisque la raison est incapable de chasser ces nuages, la nature elle-même suffit à y parvenir. Elle me guérit de cette mélancolie philosophique et de ce délire, soit par relâchement de la tendance de l'esprit, soit par quelque divertissement et par une vive impression sensible qui efface toutes ces chimères. Je dîne, je joue au Trictrac, je parle et je me réjouis avec mes amis, et si, après 3 ou 4 heures d'amusement, je voulais revenir à mes spéculations, celles-ci me paraîtraient si froides, si forcées et si ridicules que je ne pourrais trouver le cœur d'y pénétrer tant soit peu. Alors donc, je me trouve absolument et nécessairement déterminé à vivre, à parler et à agir comme les autres hommes dans les affaires courantes de la vie. David Hume, Traité de la nature humaine. Sous ses airs bonhomme, Hume n'en est pas moins l'un des philosophes les plus importants de l'histoire. Si Julien Lepers me lance « Je suis un auteur du XVIIIe siècle, j'ai apporté des contributions décisives sur le fondement des connaissances, de la morale et du jugement esthétique, je suis », il y a fort à parier que la réponse soit « Kant », à vrai dire, mais par esprit de contradiction, je répondrai « Hume », et je serai fondé à me plaindre si le présentateur refuse ma réponse, car elle est tout aussi pertinente et légitime. Certes, Emmanuel Kant, boss final de la philosophie moderne qui nous attend dans le prochain chapitre, a pondu 3 critiques volumineuses, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger, traitant respectivement et systématiquement de ces 3 champs, épistémologie, morale et esthétique, qui resteront à jamais marqués de l'empreinte de ces 3 pavés. Toutefois, pour ma part, j'avoue leur préférer, sur les mêmes sujets mais dans un style plus léger et plus vif, la lecture de « L'enquête sur l'entendement humain », « L'enquête sur les principes de la morale » et « L'essai sur la norme du goût » de notre sémillant Écossais. J'avoue aussi préférer, de façon générale, son empirisme et son scepticisme stimulant à l'idéalisme kantien et aux brumes de la philosophie allemande. Les 3 œuvres de Hume que j'ai citées, plus mince et moins velu que les 3 critiques, n'en ont pas moins marqué la philosophie. L'enquête sur l'entendement humain, tout particulièrement, a posé le problème crucial de l'induction. Est-il rationnel de croire qu'une régularité passée implique une régularité future? Si le soleil s'est toujours levé jusqu'à aujourd'hui, et si mon corps a toujours été entraîné vers le sol, qu'est-ce qui m'assure que le soleil se lèvera demain et que je ne vais pas m'envoler en sautant par la fenêtre? Selon Hume, il n'y a pas de justification purement rationnelle à cela. Non seulement il est illusoire d'espérer, sur des questions empiriques de cette sorte, parvenir à une certitude a priori du même ordre que pour les vérités mathématiques, mais même la justification de probabilité plus ou moins grande restera tout aussi irrationnelle. Pour autant, je n'essaierai pas de me jeter par la fenêtre. Par le passé, chaque fois que je me suis trouvé en chute libre à la surface de la Terre, je suis invariablement retombé sur le sol, et cette régularité a créé dans mon esprit une habitude et une attente. C'est pourquoi, si d'aventure je passais par la fenêtre, je m'attendrais à m'écraser lamentablement sur le trottoir et non à m'envoler telle une colombe. Pourtant, selon Hume, je n'ai pas d'argument rationnel pour le justifier. Je n'ai que cette attente forgée par l'habitude et la répétition. On pourrait objecter qu'il y a tout de même une relation causale, tout à fait claire et évidente, entre le fait de se jeter par la fenêtre et le fait de s'écraser sur le trottoir. Mais pour Hume, précisément, l'idée de causalité, l'idée que A cause B, ce n'est rien d'autre qu'une idée née de l'habitude d'avoir toujours observé par le passé l'événement de type A être suivi par l'événement de type B. Une relation causale n'a rien d'une implication logique. Elle ne se laissera jamais établir de façon purement rationnelle. Kant confessera que c'est cette critique de la causalité par Hume qu'il a tirée de son sommeil dogmatique. L'expression se trouve dans la préface des Prolégomènes à toute métaphysique future. Et lui a donné l'impulsion nécessaire pour écrire sa critique de la raison pure, dans laquelle il répond au défi de Hume en établissant un fondement a priori de la causalité, sans lequel il lui semblait que toute la physique devait être remise en cause. Kant y est-il parvenu ? Ma foi, je n'en dirai rien ici, mais nous en reparlerons au prochain chapitre. Chez les amateurs de philosophie allemande, Hume n'est parfois connu qu'à travers ce prisme, une étincelle qui n'éclaire rien par elle-même, mais dont le mérite est d'avoir allumé la philosophie kantienne, seule source de lumière. Kant lui-même présente les choses sous cet angle. Il écrit « Hume n'apporta aucune lumière dans cette espèce de connaissance, mais il fit jaillir une étincelle qui eût pu produire la lumière si elle était tombée sur une matière inflammable. » Il va sans dire que cette matière inflammable était l'esprit de Kant et la lumière naîtra de la critique, selon Kant en tout cas. C'est évidemment fort injuste et réducteur. Le problème de l'induction tel que Hume l'a formulé et traité constitue encore aujourd'hui un enjeu central de l'épistémologie. Son rôle ne s'est pas limité à réveiller Kant, ce sont tous les philosophes après Hume qui feront des insomnies en méditant l'idée que rien ne justifie rationnellement que le soleil se lèvera demain. Son œuvre a marqué d'autres champs que l'épistémologie, notamment la philosophie morale et l'esthétique. Mais dans ce chapitre, je resterai sur ces questions relatives au fondement des connaissances. Hume est avant tout un défenseur de l'empirisme. Toutes nos connaissances proviennent ultimement des diverses impressions transmises par nos sens. Il est loin d'être le premier empiriste. On peut citer Hobbes, Locke ou Berkeley avant lui, par exemple. Les îles britanniques offrant, semble-t-il, le meilleur climat pour cette espèce de philosophe. Mais il développera cette pensée dans certaines de ses conséquences les plus radicales. L'une des plus frappantes, que j'ai déjà évoquée à la fin du chapitre sur Locke et l'identité personnelle, est la suivante. Hume nie l'existence d'un « moi » substantiel et unique qui se maintiendrait à travers le temps. En effet, en s'examinant attentivement, il ne trouve pas en lui l'impression d'une telle unité, mais plutôt un faisceau de diverses perceptions mouvantes. Il n'y a pas de « moi ». C'est encore son empirisme qui le pousse à ses conclusions sceptiques sur l'induction et la causalité. Puisque nous ne pouvons pas faire réellement l'expérience d'une connexion nécessaire entre des événements de type A puis de type B qui se succèdent dans le temps, et puisqu'il est tout aussi illusoire d'espérer démontrer une telle connexion à la façon d'un théorème mathématique, alors l'idée que A cause B ne semble pouvoir tirer son origine que dans les lois psychologiques qui gouvernent notre nature humaine. Notre esprit est ainsi fait qu'à force de voir A suivi de B, l'habitude crée l'attente qu'après A vienne B, et l'idée de cause naîtrait de cela seulement. Toutes les observations passées ne suffisent pas à justifier rationnellement la conclusion qu'il y a entre A et B une connexion nécessaire, d'où le scepticisme de Hume quant à l'induction. Hume est certainement le plus sceptique des modernes, mais est-il un sceptique au sens ancien ? Est-il un disciple éloigné de Pyrrhon et de Sextus Empiricus, considérant toujours, selon leur maxime, pas plus ceci que cela ? Non, très loin de là. Tout d'abord, concernant ce qu'il appelle les vérités de raison, c'est-à-dire les vérités mathématiques et formelles en général, Hume n'est pas le moins du monde sceptique. Il admet sans sourciller que de telles vérités peuvent être rationnellement justifiées. S'il y a du scepticisme chez Hume, ce sera seulement à l'égard de ce qu'il appelle des vérités de fait, en dehors de celles qui concernent l'observation actuelle des choses. Par exemple, Hume, en bon sceptique, ne considère-t-il pas plus ceci, le soleil se lèvera demain, que cela, le soleil ne se lèvera pas demain ? Là encore, non. Si Hume considère que toutes les observations passées ne permettent pas de justifier rationnellement l'une ou l'autre de ses propositions, ni même la plus grande probabilité de l'une ou l'autre, De fait, il reconnaît aussi que notre esprit est ainsi fait qu'il aura tendance à pencher vers l'idée que le soleil se lèvera demain comme hier. Cette tendance n'est pas une justification rationnelle, mais elle est bien là et nous ne pouvons pas l'ignorer ni lui résister. Le scepticisme des anciens, qui prétendait en toute occasion suspendre son jugement, n'est tout simplement pas humain. En somme, on peut dégager deux degrés dans le scepticisme de Hume. D'abord, et ce n'est pas un point si original que cela, l'inclination à croire que le soleil se lèvera demain ne garantit pas avec une certitude absolue que le soleil se lèvera demain. Ensuite, et c'est à cet égard que Hume est véritablement radical, il soutient qu'une inclination de cette sorte restera toujours fondamentalement irrationnelle. Aucune forme d'induction n'est valide, pas même une induction qui ne conclut qu'à une plus grande probabilité. Le scepticisme de Hume n'est donc pas un scepticisme absolu déclarant toute connaissance impossible et poussant à une surhumaine acatalepsie. Vous n'avez pas oublié ce mot, j'espère. Mais un scepticisme plus subtil et à la mesure de l'esprit humain qui invite à admettre le caractère irrémédiablement incertain et irrationnel de nos croyances empiriques, en dehors de celles qui portent sur l'observation immédiate. Et c'est déjà beaucoup, à vrai dire. C'était assez pour tirer plus d'un philosophe des Lumières de son sommeil dogmatique. La révolution scientifique avait été portée par l'idée que l'étude de la nature était bien une démarche rationnelle. Les plus optimistes en attendaient même une certitude absolue. C'était le fond de la pensée de Descartes qui voulait rebâtir l'édifice des sciences sur un fondement absolument certain. Et devant l'incroyable efficacité de la théorie de Newton, qui parvenait à prédire avec précision jusqu'à l'orbite des comètes, n'avait-on pas toutes les raisons de penser que sa théorie tirait bien de ses observations, à défaut d'une certitude absolue, au moins une justification rationnelle? Eh bien, non. La critique de Hume portait un coup d'arrêt brutal, non pas aux sciences bien sûr, mais à cet espoir de rationalité. Même si le livre de la nature est écrit en langage mathématique, selon le mot fameux de Galilée, les lois inscrites dans ce livre ne se déduisent pas des observations passées de façon purement rationnelle. L'idée d'une marge d'incertitude irrémédiable dans nos connaissances même les mieux établies ne nous choque guère aujourd'hui. Après tout, nous nous sommes bien rendu compte que la théorie de Newton n'était pas si parfaite. La théorie de la relativité générale d'Einstein est passée par là et l'a complétée et corrigée. Elle est elle-même sans doute à corriger aussi, même si nous ne savons pas encore quelle théorie plus complète lui succédera. En somme, nous avons fini par admettre que les sciences se construisent sur des marées instables, dans lesquelles rien n'empêche de planter des pilotis pour un temps, et non sur un sol ferme. J'emprunte cette image des pilotis dans un marécage à un beau passage de Karl Popper. Il écrit « La science ne se repose pas sur une base rocheuse, la structure audacieuse de ses théories s'édifie en quelque sorte sur un marécage. Elle est comme une construction bâtie sur pilotis. Les pilotis sont enfoncés dans le marécage, mais pas jusqu'à la rencontre de quelques bases naturelles ou données. Et lorsque nous cessons d'essayer de les enfoncer davantage, ce n'est pas parce que nous avons atteint un terrain ferme. Nous nous arrêtons tout simplement parce que nous sommes convaincus qu'ils sont assez solides pour supporter l'édifice, du moins provisoirement. » Karl Popper, La logique de la découverte scientifique. Va pour l'incertitude, donc. Mais l'irrationalité, c'est une autre affaire. L'idée que la justification de nos croyances empiriques, et notamment de nos meilleures théories physiques, n'est pas fondamentalement rationnelle, est beaucoup plus difficile à admettre et fait bien de Hume, encore aujourd'hui, un auteur scandaleux. Examinons donc ce point d'un peu plus près. Pourquoi serait-il irrationnel de tenir pour seulement plus probable que le soleil se lèvera demain plutôt qu'il ne se lèvera pas? Après tout, que le soleil se soit toujours levé jusqu'à aujourd'hui semble bien, d'une certaine façon, justifié de pencher du côté qu'il en ira de même demain. Mais examinez de près cette justification. Les observations passées toutes seules n'impliquent pas logiquement une probabilité de quoi que ce soit. Cela ne se déduit pas selon des principes purement logiques. Vous pourriez essayer de contourner le problème en vous adossant à un principe probabiliste, comme par exemple le suivant : l'observation de régularité passée augmente la probabilité qu'il en aille de même à l'avenir. Ainsi, les observations passées et ce principe pris ensemble impliquent bien une plus grande probabilité que le soleil se lève demain. Mais Hume pourrait objecter : pouvez-vous justifier rationnellement ce principe probabiliste ? Pouvez-vous le déduire logiquement de vos expériences passées ? Cela semble hasardeux. Si vous le posez plutôt comme une sorte de dogme, votre justification ne sera pas rationnelle. Si vous vous basez sur les succès passés de ce genre d'induction, faisant ainsi une sorte de méta-induction, votre raisonnement est circulaire. Et quel que soit le principe plus général dont vous vouliez tirer votre principe probabiliste, il faudrait à nouveau vous poser la question de savoir comment justifier rationnellement ce nouveau principe. Les lecteurs attentifs auront reconnu là un nouvel avatar du trilemme d'Agrippa. En fin de compte, selon Hume, vous ne retrouverez jamais le sol ferme de la raison pour fonder votre croyance en ceci qu'il est plus probable que le soleil se lèvera demain. Et c'est en ce sens que Hume peut déclarer que cette inclination à le croire n'est pas rationnelle. Cela étant dit, il est important de noter que Hume ne semble pas exclure qu'il y ait une forme de logique, ou tout au moins de bonne pratique, dans la façon d'établir la probabilité de telle ou telle proposition empirique. Hume n'est pas un sceptique pour qui toute croyance en vaut une autre. Tout en soutenant qu'attribuer des probabilités à des propositions empiriques restera ultimement irrationnel, il semble par ailleurs admettre qu'il y a des façons plus ou moins correctes, à défaut de dire rationnelles, de distribuer ces probabilités. Le joueur de trick-track qu'il était ne pouvait guère l'ignorer en lançant les dés. L'un des passages où ressort le plus nettement cet aspect de la pensée de Hume est le chapitre de l'enquête sur l'entendement humain consacré au miracle, dont je propose de lire quelques passages éclairants. Hume écrit : Nous hésitons fréquemment devant les récits des autres hommes. Nous mettons en balance les circonstances opposées qui causent un doute ou une incertitude, et quand nous découvrons une supériorité d'un côté, nous penchons vers lui, mais pourtant avec une assurance diminuée en proportion de la force du côté opposé. Supposez, par exemple, que le fait que le témoignage essaie d'établir participe de l'extraordinaire et du merveilleux. Dans ce cas, l'évidence qui résulte du témoignage admet une diminution plus ou moins grande en proportion de ce que le fait est plus ou moins inhabituel. La raison qui nous fait accorder du crédit aux témoins et aux historiens ne se tire pas d'une connexion perçue a priori entre le témoignage et la réalité. Elle vient de ce que nous sommes accoutumés à trouver de la conformité entre eux. Mais quand le fait attesté est tel qu'il est rarement tombé sous notre observation, il se produit alors une lutte entre deux expériences contraires. L'une d'elles détruit l'autre dans la mesure de sa force et l'expérience supérieure peut seulement opérer sur l'esprit par son surcroît de force. C'est exactement ce même principe de l'expérience qui nous donne un certain degré d'assurance en l'attestation des témoins et qui nous donne aussi, dans ce cas, un autre degré d'assurance contre le fait qu'essaient d'établir les témoins. Cette contradiction engendre nécessairement un balancement et une destruction mutuelle de croyances et d'autorité. Je ne croirais pas une telle histoire même si Caton me l'a racontée. C'était une maxime proverbiale à Rome, même du vivant de ce patriote philosophe. L'incrédibilité d'un fait pouvait, accordait-on, invalider une autorité aussi grande. Le prince indien, qui refusait de croire les premiers témoignages sur les effets du gel, raisonnait correctement. Et il fallait naturellement de très forts témoignages pour gagner son assentiment à des faits produits par un état de la nature qui ne lui était pas familier et qui soutenait si peu d'analogies avec les événements dont il avait une expérience constante et uniforme. Bien que ces faits ne fussent pas contraires à son expérience, ils n'y étaient pas conformes. David Hume, Enquête sur l'entendement humain. Hume esquisse dans ses lignes une véritable théorie de la confirmation. Il ne lui manque que les outils du formalisme mathématique pour quantifier précisément l'évolution de ces degrés d'assurance et de ces rapports de force entre les justifications qui nous font pencher plus ou moins de tel ou tel côté. Ce formalisme pourrait être celui de la théorie des probabilités que le mathématicien Pierre Laplace, et avant lui mais indépendamment Thomas Bayes, mettra au point quelques décennies plus tard et qu'il appliquera justement au problème de l'induction et à la question de savoir quelle est la probabilité que le soleil se lève demain. Cette théorie humienne de la confirmation semble ainsi se rapprocher de ce qu'on appelle aujourd'hui le bayésianisme, qui est généralement reconnu comme l'approche correcte de la confirmation. Quel est le statut de cette esquisse de théorie chez Hume? N'est-elle à ses yeux qu'une description de la façon dont, de fait, nous avons tendance à estimer les probabilités? Les premiers paragraphes cités peuvent donner cette impression. Mais lorsque Hume mentionne ce prince indien qui raisonnait correctement en doutant des témoignages sur le gel de l'eau, il semble bien conférer à cette théorie une valeur de norme. Elle prescrit comment raisonner correctement dans l'estimation des probabilités, ce qui revient à dire comment raisonner correctement sur des questions empiriques en général. La suite du texte est encore plus claire à ce sujet, abordant la question de savoir à quelles conditions il est légitime de croire en un miracle. Nous allons voir que Hume formule une réponse particulièrement forte et qui ne manque pas de pouvoir servir encore aujourd'hui. Hume écrit « Pour que quelque chose soit considéré comme un miracle, il faut qu'il n'arrive jamais dans le cours habituel de la nature. Ce n'est pas un miracle qu'un homme apparemment en bonne santé meure soudainement, parce que ce genre de mort, bien que plus inhabituel que d'autres, a pourtant été vu arriver fréquemment. Mais c'est un miracle qu'un homme mort revienne à la vie, parce que cet événement n'a jamais été observé, à aucune époque, dans aucun pays. Il faut donc qu'il y ait une expérience uniforme contre tout événement miraculeux, autrement l'événement ne mérite pas cette appellation de miracle. Et comme une expérience uniforme équivaut à une preuve, il y a dans ce cas une preuve directe et entière venant de la nature des faits contre l'existence d'un quelconque miracle. Une telle preuve ne peut être détruite et le miracle rendu croyable, sinon par une preuve contraire qui lui soit supérieure. La conséquence évidente, et c'est une maxime générale qui mérite notre attention, est « Aucun témoignage n'est suffisant pour établir un miracle, à moins que le témoignage ne soit d'un genre tel que sa fausseté serait plus miraculeuse que le fait qu'il veut établir. » Et même dans ce cas, il y a une destruction réciproque des arguments, et c'est seulement l'argument supérieur qui nous donne une assurance adaptée à ce degré de force qui demeure déduction faite de la force de l'argument inférieur. Quand quelqu'un me dit qu'il a vu un mort revenu à la vie, je considère immédiatement en moi-même s'il est plus probable que cette personne me trompe ou soit trompée, ou que le fait qu'elle relate ait réellement eu lieu. Je soupèse les deux miracles, et selon la supériorité que je découvre, je rends ma décision et rejette toujours le plus grand miracle. Si la fausseté de son témoignage était plus miraculeuse que l'événement qu'elle relate, alors et alors seulement, cette personne pourrait prétendre commander ma croyance et mon opinion. David Hume, Enquête sur l'entendement humain. En somme, un miracle aurait besoin d'un miracle pour être seulement crédible. Il faudrait qu'il soit miraculeux, que l'ensemble des témoignages en sa faveur soient erronés, autrement dit que la probabilité de leur fausseté nous semble aussi faible que la probabilité que le miracle ait bien lieu. Et notez que ce cas apporterait non une raison de pencher en faveur du prétendu miracle, mais seulement une raison de balancer également sa croyance entre deux miracles opposés, le miracle dont on témoigne et le miracle que les témoins soient dans l'erreur. Or, on voit mal en quel sens ce dernier cas pourrait proprement relever du miraculeux. Que des témoins se trompent, fussent nos propres sens ou notre propre mémoire, qui ne sont pas des témoins si fiables, n'a rien de bien extraordinaire. Cela restera toujours plus probable que la moins probable des choses, à savoir un miracle. De façon plus générale, on peut tirer de Hume l'idée suivante. Pour évaluer la crédibilité d'une théorie a priori extraordinaire, en prenant le terme de théorie en un sens très large, demandez-vous à quel point il serait extraordinaire que les preuves qui justifient cette théorie soient en fait erronées. Par exemple, il serait a priori extraordinaire que des extraterrestres aient visité la Terre, et les preuves que présentent certaines personnes pour justifier cette théorie consistent, pour l'essentiel, en quelques témoignages et vidéos floues. Que ces preuves soient erronées serait-il en soi plus extraordinaire que la visite d'extraterrestres ? Il me semble que non, pour ma part. Et si l'éventualité d'erreur dans les preuves reste ainsi moins extraordinaire que la théorie qu'elles sont censées justifier, vous n'avez en fait aucune raison de vous laisser convaincre par cette théorie. Si les preuves ont quelque valeur, vous devriez tout au plus augmenter légèrement le degré de probabilité que vous accordez à cette théorie extraordinaire, mais cela resterait très faible. S'il vous semble à peu près aussi extraordinaire que ces preuves soient erronées ou que la théorie soit correcte, ce ne sera pas encore suffisant pour vous convaincre de cette dernière. Vous devriez seulement considérer le sujet comme très incertain. Et c'est seulement au cas où il vous semblerait nettement plus extraordinaire que les preuves soient erronées plutôt que la théorie incorrecte que vous serez justifié à pencher du côté de celle-ci. Ainsi, la maxime « une affirmation extraordinaire requiert une preuve extraordinaire » est un peu faible si elle prétend prescrire ce qui est requis pour emporter l'adhésion. Il faut en fait une preuve plus extraordinaire encore. ou pour le dire tout à fait rigoureusement, une affirmation extraordinaire requiert une preuve dont il serait encore plus extraordinaire qu'elle soit erronée. C'est un peu moins joli, mais plus exact. Quelques livres pour aller plus loin. David Hume, Enquête sur l'entendement humain, Flammarion, collection GF, 1983. Ce livre peut vous tirer de votre sommeil dogmatique si besoin est. Quoi qu'il en soit, la lecture en est aussi agréable que stimulante intellectuellement. Je recommande tout autant l'enquête sur les principes de la morale, si la philosophie morale vous tente davantage que l'épistémologie, ou ses dialogues sur la religion naturelle, qui sont une merveille d'écriture en plus d'être une bonne introduction à sa pensée. Les échanges sont très agréables à lire et souvent assez drôles. Nelson Goodman, Faits, fictions et prédictions, aux éditions de Minuit, 1985. Ce classique de la philosophie analytique revisite d'une façon inattendue le vieux problème de l'induction légué par David Hume. La question cruciale est la suivante, les émeraudes sont-elles bleues ? Sous ce prédicat digne de Lewis Carroll se cache la nouvelle énigme de l'induction sur laquelle bien des philosophes se sont cassés la tête et encore aujourd'hui. Les émeraudes ont toujours été bleues, pourquoi donc cesseraient-elles brusquement de l'être ?